Girol vous donne le micro au 05 81 31 43 34.
Girol, la radio.
Ah.
Et bonsoir et bienvenue en direct du centre d'animation Saint-Pierre avec comme d'habitude un petit quart d'heure, 20 minutes même, 20 minutes de retard. C'est la pluie, vous savez que la pluie à Bordeaux c'est toujours délicat, les gens ne savent plus du tout conduire, n'est-ce pas Isa?
Et oui, c'est tout à fait ça.
Voilà.
Quand tu as une voiture sans permis devant toi dans une route de campagne surchargée, c'est
voilà.
Pas fun.
D'où l'idée d'avoir une Xantia avec un pare-buffle à la Jean-Claude Convenant.
Peut-être, mais tu peux en courir quelques déconvenues, suivant la personne au volant.
Alors, ce soir, on est encore pour une petite heure ou un peu moins d'une petite heure autour des cultures libres. Il y a des choses à dire. Au programme, on va parler de Compiz. Compiz is not dead.
Alors, on va peut-être faire juste une petite brève parce que je pensais avoir embarqué avec moi le développeur de la partie Debian, Compiz Debian, puisqu'on le connaît.
Voilà, c'est notre ami Joff.
Donc voilà, je vais juste faire une petite brève sur le sujet et j'espère qu'on pourra l'avoir en live, soit à la prochaine radio, soit pour l'install party.
Voilà, on va parler aussi de blocage des logiciels libres aux États-Unis avec une chose un peu ahurissante, c'est que la FCC, qui est un espèce de régulateur au niveau commercial américain, a établi de nouvelles règles pour les routeurs, ce qui fait que TP-Link a réagi en bloquant l'installation de firmware tiers sur leur routeur. Ça, c'est...
Oui, alors j'ai vu passer la news, donc on va en parler.
C'est pas mal du tout. On va parler, effectivement, comme je disais, de la loi Sénat, du projet de loi numérique avec la priorité au logiciel libre qui est passé à la trappe. On va pas commencer à parler de lobbying, mais presque quand même. On va parler peut-être un petit peu de jeux vidéo. On va parler de Ubuntu sur Windows. Ça a été une annonce faite, et notamment du Bash qui arrive sur Windows. Voilà, ça y est, ils arrêtent de nous combattre et ils sont convaincus maintenant. Windows est passé à Linux ou passe un petit peu à Linux, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, côté musique, c'est toi, Isast, encore une fois.
Alors oui, bah, ça fait longtemps que j'avais pas proposé des choses hein, quand même. Donc, depuis la réouverture de Dogmasic, j'ai pris le temps de regarder un petit peu ces derniers temps.
Et si tu as du micro, ça y est.
Bonsoir, voilà.
Alors,
le micro.
Oui, il y marche ton micro.
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parfait. Là, c'est 1, 2, ouais, c'est bon.
Et moi, j'ai l'impression que c'est le mien que t'as baissé. Mais...
Ah, peut-être.
Bon, Clément, tu sors, attends. Tu t'en vas. Attends, je veux plus te voir.
Attends. Parce que là, je vais faire un truc, tu vois.
Je t'ai expliqué c'est tout ce que tu fais à la radio. Ça
t'entends s'entend. Toujours des trucs, toi, dans le casque,
ouais,
Mathis.
Moi, j'entends toujours.
Voilà,
ouais.
Donc c'était pas le 2, parce que le 2, c'est moi. Et on va essayer le 1, peut-être. Le 4, pardon.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Et rebonsoir à tous.
Et rebonsoir tout le monde.
Rebonsoir.
Voilà, quelques petits soucis techniques de connexion. Ne prenez surtout pas des connexions chez SFR Numéricable, ils sont vraiment à chier. Voilà,
c'est Je confirme. Et ils font de la fibre en coaxiale.
Voilà, c'est ça. On aimerait que l'ARCEP fasse un peu le ménage et leur explique ce que c'est vraiment que la fibre, mais ils ont peut-être d'autres chats fouettés, je sais pas. Donc, on en était à la présentation de tout le monde. Donc, Mathis, bonsoir Mathis. Rebonsoir pour la troisième fois. Voilà, rebonsoir Isa. On a Alexandre aussi. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Voilà. Justement, d'Aquilonet.
On va justement, peut-être. Pourquoi justement?
Bah, parce qu'on a des gros soucis de connexion internet, fait que non seulement on a commencé avec 20 minutes de retard, mais on a aussi 10 minutes de problèmes de connexion divers et variés, ce qui fait qu'on est en retard.
Bah, tant mieux, j'étais en retard, donc ça a l'air bien d'arriver comme ça.
Voilà. Donc, on disait au programme, on va peut-être commencer par le premier sujet qu'on trouve très, très intéressant et qui nous concerne plus ou moins directement. C'est la fin de la priorité au logiciel libre et format ouvert qui était inscrit dans le projet de loi sur le numérique par Axel Lemaire et qui a été piétiné des deux pieds par le rapporteur du Sénat qui n'a dit en clair que c'était pas assez précis, que ceci, que cela. Donc c'est fini. La priorité au logiciel libre a donc été enlevée du projet de loi tel qu'il est au Sénat. Rien n'est perdu pour autant, puisque normalement le projet de loi doit retourner à l'Assemblée nationale, mais quand même c'est un coup dur porté à quelque chose que l'on voyait nous d'un plutôt très bon œil. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, mais même si l'Assemblée nationale aura toujours le dernier mot, c'est vrai que c'est une mauvaise image renvoyée par le Sénat.
C'est ça, surtout que...
Oui, non, on a eu aussi la consultation du numérique, où il y a beaucoup de gens qui ont émis le désir de mettre en avant les logiciels libres. Et au final...
Et la liberté de panorama.
Oui, aussi. Ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ça. C'est quand même un serpent de mer. Et on se rend compte qu'à tous les coups, au final, il ne se passe pas grand-chose. Quoi. Donc là, c'était peut-être une avancée. Mais bon, on peut faire confiance au lobby pour agir comme il faut.
Un pas en avant, trois pas en arrière.
C'est ça.
Et justement, en parlant des lobbies, il y a Windows 10 qui est sorti. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que bon, ça échappe un petit peu de vos radars, à mon avis. Mais si ça ne vous intéresse même pas, d'ailleurs... Mais il y a des gros problèmes sur les fuites de données sur ce logiciel. C'est-à-dire que vous installez Windows 10 et tout à coup, des centaines de connexions se font tous les jours vers des sites de Microsoft en peer-to-peer, en IP direct, etc. Et c'est extrêmement difficile à mitiger. Ça fait une fuite de données pour les entreprises. Nos organismes régulateurs, l'ARCEP, n'a rien dit sur le sujet. Apparemment, ça a l'air d'être parfaitement contrôlé par Microsoft.
La CNIL a juste un petit peu toussé légèrement hein, dans leur mouchoir en soif. Excusez-moi. Mais effectivement, ça porte pas les données, sachant que, enfin, aussi, on est au courant, puisque moi-même, j'ai développé un petit script en PowerShell pour bloquer un maximum de merdouilles. Parce que, effectivement, quand on installe des machines, dans le cas de moi, de l'association pour laquelle je travaille, qui est quand même une très grosse association, je suis très sensible à la question et effectivement, nos sénateurs préfèrent effectivement reléguer. Alors, les logiciels libres, c'est une chose, mais surtout les formats ouverts. On rappelle quand même que c'était ce qui était inscrit dans le projet de loi demandait aux administrations, à tout ce qui est service public, d'utiliser en priorité logiciels libres, mais surtout format ouvert. Oui. Voilà. On parle d'interopérabilité, faire en sorte que chaque contribuable ne soit pas obligé de dépenser plusieurs dizaines d'euros, voire même une bonne centaine d'euros pour acheter un logiciel qui lui permettrait de lire les documents que lui envoie effectivement le service public, sachant que ça serait un peu une double peine pour le contribuable, puisque d'un côté il paye les impôts pour faire en sorte que cette machine fonctionne bien, et de l'autre il est quand même obligé d'acheter en plus un logiciel à une centaine d'euros pour pouvoir lire les documents ou les données que lui envoie son centre des impôts.
Enfin... Qui lui pique des données personnelles, le logiciel en question, en plus.
En plus.
La boucle est bouclée.
Donc,
et juste pour revenir sur ce que tu disais, tu as réussi à bloquer complètement les fuites de données ou...
Non.
Mais c'est ça, il n'y a pas de solution absolue. Quoi, après,
je crois, tu parles du script pour bloquer les mises à jour ou tu parles
non, j'en ai.
Ah d'accord.
J'ai écrit parce que j'ai aussi écrit un. On s'est retrouvé aussi avec Microsoft. On est quand même dans.
Très amis,
très amis, voilà. Et je me suis retrouvé à devoir écrire un script qui empêche la mise à jour vers Windows 10 parce que mes utilisateurs finissaient par cliquer sur le bouton mettre à jour parce que c'était tellement suggéré. Qu'effectivement les gens se retrouvaient obligés de passer à Windows 10. Ils étaient presque pas avec un couteau sous la gorge, mais pas loin quoi.
Mais il faut pas être administrateur pour ça.
Pour
mettre à jour. Il y a pas besoin d'être administrateur.
Mais non, bien sûr que non. Sur une machine, non. Alors, je précise, nous n'avons pas de Windows Pro, donc c'est effectivement, c'était des Windows familiales, mais ça n'empêche que. Donc, et là, oui, j'ai écrit un autre script. Le script, par exemple, j'arrive à bloquer certaines adresses IP par le firewall. J'arrive à bloquer le host en renvoyant vers des. J'ai toute une liste de noms de domaines et en fait, je les renvoie vers 0000. Et c'est pas. J'ai quand même effectivement des choses qui passent.
Il y a toujours des nouvelles adresses qui arrivent.
Il y a toujours des nouvelles adresses. Il y a toujours des mises à jour qui font en sorte d'essayer d'enlever par-ci par-là, de remettre à jour le fichier host parce que c'est quelque chose de très connu. Apparemment, Microsoft sait que certains utilisateurs utilisent le fichier host pour bloquer effectivement la fuite de données. Mais voilà, on a beau essayer de désactiver l'assistant de recherche Cortana et elle revient toujours.
Ouais. Et proxy, pareil, ça marche pas.
J'ai pas essayé ça.
Okay.
Enfin, toujours est-il que nos sénateurs laissent passer aussi la fuite en avant vers les logiciels Microsoft. Ouais,
ouais. Mais quelque part, ça ne m'étonne pas que les sénateurs soient plus. Moins informés que les députés, c'est-à-dire moins sensibles, on va dire, que les députés à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit étonnant.
Non. Par contre, ce qui est effectivement étonnant, c'est qu'il y a eu une consultation publique et que c'était une des préoccupations majeures, effectivement, des gens qui ont répondu à cette consultation avec le grand site sorti en grande pompe République Numérique. Et effectivement, c'est encore un coup dur porté à ce site et surtout à la vision que l'on a de cette caste politique dirigeante. Parce qu'effectivement, on a proposé quelque chose, ça a été proposé de façon massive, et au final, on le piétine lamentablement, en fait, en disant, mais non, c'est défini, c'est pas ceci, c'est pas cela, et hop, on botte en touche. Donc, ça montre aussi que nos dirigeants n'en ont que faire de nos préoccupations, mais se préoccupent par contre d'autres choses. Reste à savoir quoi.
Il y a plein de sujets, il suffit d'allumer les médias classiques.
Panama Papers, peut-être.
Oui, ou un petit accord entre le ministère de l'Éducation et Microsoft pour les tablettes.
C'est ça. Bon, je vous propose une petite pause musicale.
Allez, c'est parti. Bon, écoute, si tu peux éventuellement, donc tu as récupéré les titres, j'imagine.
Bien entendu, je les ai tous là devant moi.
Donc, passer un petit titre de Reset Sacré-Cœur. Le premier, je te propose le premier titre de l'album.
Et alors, il me faudrait le nom parce que du coup.
Je pense que je ne vais pas arriver à le prononcer parce que c'est du suédois.
Oui.
Donc, je ne suis pas sur le bon anglais qui présente la bonne liste. Oui, ça y est. Janne Imingarna.
Voilà. Donc, Reset Sacré-Cœur sur Radio Girol.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Oh, yeah.
Et nous voilà de retour. C'était Risette Sacré-Cœur avec un titre que j'éviterai de prononcer.
Moi, je ne reprononcerai plus non plus.
Alors, on vient de parler du Sénat, tout ça, logiciel libre. On va rester un petit peu dans le domaine, mais on va partir de l'autre côté de l'Atlantique cette fois-ci. Ça se passe aux États-Unis, la FCC. Alors, je vais retrouver sur Wikipédia ce qu'ils en disaient. C'était la Federal Communication Commission a établi de nouvelles règles au niveau des routeurs Wi-Fi pour empêcher l'utilisation par les bidouilleurs de fréquences qui sont jusque-là allouées aux systèmes radar, aux outils de communication, aux outils météorologiques, et donc a établi des règles pour que tout ça soit très bien encadré. Sauf que les effets n'ont pas tardé à se faire ressentir, puisque TP-Link, grand fabricant chinois de matériel réseau et notamment des points d'accès Wi-Fi qui sont très appréciés de la communauté de bidouilleurs, a répondu en disant que ça y est, aux États-Unis, les produits qui vont être vendus sous sa marque seront désormais bridés pour empêcher l'utilisation de firmware alternatifs comme, pour ne citer que les plus connus, Tomato, DDWRT ou encore OpenWRT. Donc ça, c'est un coup dur porté aux bidouilleurs en tout genre, et pas que, puisque si je dois parler moi de mon expérience, j'utilise beaucoup de routeurs TP-Link avec OpenWRT pour mettre en place des réseaux Wi-Fi le plus fiable possible, parce que OpenWRT est plutôt reconnu pour sa fiabilité. Voilà, c'était la petite news, encore une petite news, mauvaise news je trouve, parce que combien de temps faudra-t-il attendre pour que ce genre de règles arrivent jusque chez nous. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez un peu autour de la table ?
Alors, moi, j'ai lu un peu l'article. Alors, c'est vrai que malheureusement, ils ont pris la solution de facilité. C'est ce que craignaient les gens lorsque la loi est passée. Puisqu'en fait, ce qui est concerné au départ, c'est juste la partie, une partie technique très particulière.
C'est l'accès à des ondes radio spécifiques.
Voilà, c'est l'accès aux ondes radio. Mais ce n'est pas la totalité du firmware qui est normalement concerné par ça. Donc ils ont fait au plus simple. Théoriquement, ils n'étaient pas obligés, mais pour pas s'embêter, effectivement, ils sont allés au plus simple, TP-Link. Mais ils laissent une porte ouverte, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai lu et ce que je vois donc sur mon écran, puisque j'ai l'article de Numérama sous les yeux, TP-Link dit qu'en conséquence de ces changements incontournables, les utilisateurs ne pourront pas flasher les générations actuelles de firmware open source. Mais ils sont enthousiastes de voir comment la créativité de la communauté open source mettra à jour le nouveau firmware pour satisfaire ses besoins. Donc ils sont contradictoires, c'est-à-dire qu'ils disent que ça sera pas possible, et en même temps ils se demandent comment les bidouilleurs vont réussir à le faire. C'est un peu particulier comme attitude. Donc voilà.
Ou alors peut-être qu'ils se demandent comment ils vont empêcher les bidouilleurs de le faire aussi.
Bon, tel que c'est dit, c'est pas formulé comme ça, mais bon, on n'est pas dans leur tête.
On a tous en mémoire un certain George Hotz qui non seulement a craqué les protections de l'iPhone, mais aussi a craqué la protection de la PlayStation 3. Et il avait 16 ans quand il a commencé à bidouiller sur les iPhones. Donc, effectivement, on peut qu'être assez confiant sur le fait que quelqu'un arrivera à faire quelque chose. On a tous aussi en mémoire les bootloaders des téléphones Android qui n'ont jamais résisté bien longtemps aussi aux bidouilleurs en tout genre et qui ont permis l'installation de systèmes alternatifs sur nos téléphones Android.
Mais en parlant d'iPhone, c'est quand même assez ironique que TP-Link, qui est une marque très utilisée par les bidouilleurs, cède face à cette demande. Quand Apple, qui est plutôt connu pour aider la NSA, refuse de faire une faille sur ses iPhones.
Oui, bon, enfin, l'histoire d'Apple, je ne sais pas.
Oui, si c'est aussi pour se donner une bonne image, on est d'accord. Mais c'est quand même assez ironique sur le principe.
Parce que je me rappelle, il y a quelques années, on était à Toulouse pour le THSF, et on avait un monsieur qui nous faisait des conférences. C'était un ancien de Microsoft qui nous expliquait qu'il voyait des gros câbles dans les data centers partir de chez Apple, de chez Microsoft, qui allaient dans une armoire. Il ne savait pas où est-ce que ça allait, et c'était une armoire de la NSA. Il nous a fait ses conférences. Bon, depuis, il est mort, il était très, très malade. Mais c'était il y a 5 ans déjà. Et je ne pense pas que ça ait changé trop depuis, malheureusement.
Même si Apple veut nous faire croire qu'ils ont envie de devenir souverains eux aussi, et ne plus dépendre d'Amazon et d'autres grandes plateformes de cloud. Enfin, toujours est-il que c'est quand même plutôt mauvaise nouvelle pour les bidouilleurs, même si effectivement il sera toujours possible de bidouiller, mais ça voudra dire, apparemment, dans le même article, ils avertissaient quand même que les garanties allaient de toute façon sauter. Bon, on est déjà plus ou moins habitué, mais effectivement, à quand l'arrivée de ce genre de choses ici, sachant que ça pose aussi un autre problème, c'est que beaucoup de routeurs TP-Link, par exemple, ne sont pas souvent mis à jour, même quand on découvre des failles de sécurité assez importantes. Alors que les firmwares développés par la communauté le sont souvent beaucoup plus.
Oui, il y a plus de réactivité. Et de toute façon, il y a une obligation aussi quand on fait des réseaux Wi-Fi de mettre à jour régulièrement le firmware, parce que ça change les fréquences qu'on utilise. Et si on reste sur les mêmes fréquences, il y a des fortes chances qu'on ait des visites de l'armée pour vous expliquer qu'il ne faut pas occuper une fréquence. Donc c'est une obligation pour les FAI associatifs de mettre à jour les firmwares. Automatiquement, ça change les fréquences.
D'accord. Donc c'est fini le matériel TP-Link. Alors, peut-être pas encore en Europe, oui. Parce qu'effectivement, c'est une règle américaine. Ça concerne les États-Unis, mais...
Il faudra le changer manuellement, quoi, les fréquences. Du coup, ça ne sera pas avec les mises à jour. Mais après, il y a une énorme communauté qui fait du Wi-Fi aujourd'hui, puisque en fait, ces matériels touchent particulièrement les réseaux Wi-Fi. Ces communautés trouveront toujours des alternatives pour utiliser du matériel libre. C'est inconcevable de faire du mesh avec ces équipements-là. Les protocoles n'existent même pas sur ces firmwares propriétaires.
Oui, parce que c'est du matériel, ça reste du matériel grand public.
Et, voilà. Et ils n'ont pas implémenté les logiciels dessus. Donc il y a beaucoup d'applications qui n'existent pas dessus.
Mais de toute façon, les bidouilleurs auront toujours une longueur d'avance et les fabricants corrigent après. Donc on trouve toujours une solution qui est corrigée après, mais ils ne peuvent pas corriger en avance s'ils ne savent pas comment on va bidouiller.
C'est ça. Alors.
C'était juste pour dire que chez les hackers, il y a toujours le concept qu'une chose qui a été faite peut toujours être défaite. Il y aura toujours des solutions.
Il y a Strikor qui nous dit, notre ami Strikor, rappelez-vous, notre spécialiste jeu vidéo, créateur de Lutris, qui s'est exilé en Californie, là-bas loin, qui nous dit que notre sujet va de pair avec un autre sujet. Alors, ça vient de l'EFF, Electronic Frontier Foundation, qui se joint à 32 autres associations de protection de liberté américaine pour demander à Obama de rejeter sa position anti-chiffrement. Voilà, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas très, très doué forcément en anglais et que, bien entendu, ça se passe le lien qu'il nous envoie sur notre IRC, irc.freenode.net/le-salon-dièse-du-rôle. Et j'arrive pas à l'ouvrir dans Firefox. Donc voilà, c'était juste pour le souligner. Il en parlera demain, d'ailleurs, sur le Linux Weekly Daily Wednesday. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc que fait Strikor là-bas loin. Je vous propose une petite autre pause musicale, pardon. Il serait peut-être temps un peu que tu nous présentes peut-être cet artiste. Alors.
Oui, donc Reset Sacré-Cœur, c'est une des multiples facettes d'un artiste qui est lui-même très varié. Il se définit d'ailleurs comme un artiste... comment on dit déjà ? Excusez-moi, je perds mes termes, parce que j'ai toujours des onglets en même temps.
Polyvalent ?
Disons un schizophrénique. Voilà, c'est le mot, schizophrénique. Parce qu'en fait, il a plusieurs personnalités. Vous avez Sacré-Cœur, Milio, attendez, je vais trouver le bon, Simio, pardon, et Piusette. Voilà. Et donc, en fait, il fait des styles vraiment différents. Ce qu'on écoute actuellement avec Christelle Sacré tout cœur, je veux dire, c'est plus une pop électro, très légère et très bien construite. Et après, vous avez d'autres, il développe d'autres aspects sous ses autres noms. Et il a aussi son label qu'il pousse lui-même, en fait, on va dire. Ça s'appelle Bass Pistol, et sur lequel vous allez retrouver lui en tant qu'artiste sous ses multiples noms et d'autres artistes évidemment qu'il va proposer aussi. Donc moi je l'ai retrouvé en fait, son nom me disait quelque chose, enfin le nom de son label. En fait je l'ai trouvé sur Dogmazic qui est René de ses cendres et qui a redéveloppé son player sur Ampache. Et récemment, il y a eu une mise à jour et c'est déjà beaucoup plus sympa. Alors, c'est pas encore terminé, il va y avoir encore des évolutions. Donc, je suis allée jeter un coup d'œil et puis j'ai regardé les nouveautés et je suis tombée sur ce disque-là qui m'a beaucoup plu. Donc, ce monsieur s'appelle Seth, en fait. Donc, si vous cliquez sur les liens, vous allez tomber sur son site perso, vous allez voir sa présentation à lui. Et c'est quelqu'un, en fait, qui est très engagé dans les logiciels libres. Il traîne d'ailleurs très souvent sur le chan de Dogmazic. Et malheureusement, moi aussi, mais je suis pas encore tombée sur lui. On n'est pas connectés au même moment. Je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un décalage horaire avec la Suède, je ne sais pas. Donc voilà, il s'était occupé de la partie culturelle pour des RMLL qui avaient eu lieu, si je me trompe pas, à Genève. Bref. Là-bas, dans le nord, je n'avais pas suivi.
C'est un peu l'est, Genève.
Oui, Genève, c'est pas trop le nord.
Ouais. Enfin, pour moi, c'est le nord à partir du moment. C'est au-dessus.
Au-dessus de Bordeaux. Bon,
voilà. C'est nord-est. Et voilà. Et donc, il est très engagé. Il utilise Ubuntu Studio. Voilà, beaucoup. Il fait toujours la promotion des logiciels libres, open source. Bon, tous ces sites sont en anglais, mais il parle aussi le français. Il parle 5 langues, je crois. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez éclectique et voilà, de très intéressant. Donc j'aurais aimé pouvoir faire une interview via le chat sur le chat de Dogmazic, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Peut-être une prochaine fois.
Et alors juste la licence.
Alors sa licence, c'est une by NCSA.
De Creative Commons.
Voilà, c'est ça. Alors, j'aurais voulu lui poser la question pourquoi ce choix et pourquoi elle n'apparaît pas sur ces sites. Donc, ce sera pour une prochaine fois.
Alors, le morceau suivant.
Ça sera le numéro 2, ça s'appelle Step Up.
Allez, c'est Reset Sacré-Cœur sur Radio Girol.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Down. It's now or never. Are you like me? Do you feel the fever? Do you also dream of the words all together? Of colors, of love, and happy forever. It can't be that hard, we just have to work. The politicians are all obvious jerks. Let's challenge the nonsense just for a while. And later you tell me it was worth to try. Take your time, but don't be too long, you don't want to waste mine. And if you don't want to me it's fine, but the present situation won't be that kind. They say to let you live, they should produce your car, but if you ask me, I think they go too far. If you need 10, they'll make 4,000 jars, and this is the message of the following bars. Stand up, no
time to lose. The people of the world is having the blues. They tired of being ruled by these fools. It's time to get together on our own set of rules. They say we have to how to get along with our lives, but that, my brother, is the fattest of lies. They give us some shit and you play the fly. Do you really like the game of selling and buy?
Et vous voilà de retour sur Radio Girol. On va passer à des sujets un peu plus légers quand même. Voilà, à force de parler de liberté, tout ça, on finirait par tous aller se pendre. Alors on va parler de trucs un peu plus marrants, sympas. Non, surtout ce qui... Alors, je sens votre désapprobation. C'est surtout de voir ce qu'ils font avec nos libertés. Ça donnerait envie de se pendre.
Ouais.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on a eu une petite news, arrivée le 30 mars, on a tous cru à un poisson d'avril en avance, et ben non, il paraît que non, mais ça y est, ça arrive, le Bash arrive sous Windows, paraît-il.
Et Ubuntu, du coup.
Et Ubuntu arrive, voilà.
C'est pas un poisson d'avril, parce que bon, moi j'ai lu la news en me disant, ah ouais, ah merde, mais les autres disaient, ah mais non, c'est un poisson d'avril.
C'est sorti 2 jours avant le
oui,
poisson, voilà, donc c'est effectivement, ça pouvait porter à caution, mais non. Apparemment non, alors peut-être qu'on est très mal informé. Ceci étant dit, il y a de ça quelques mois, Microsoft parlait d'intégrer SSH à Windows déjà. Et ça, c'était pas un poisson d'avril, c'était bien avant. Même si on n'en voit toujours pas la couleur, c'était censé arriver. Alors, le tout, c'est de savoir est-ce que c'est effectivement un poisson d'avril ou pas. Moi, j'ai vu quelques news qui ont circulé même après le 1er avril, donc qui tendaient à confirmer ça. Il y a des sites comme ZNet qui en a parlé. Il y a tout un tas de choses.
C'est peut-être une conspiration du 1er avril.
C'est peut-être une conspiration du 1er avril, tout à fait. Enfin, toujours est-il que moi, ça m'intéresse plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir enfin faire des choses sympas avec la console Windows, sachant que pour beaucoup l'utiliser en ce moment, je rappelle que la console Windows n'est même pas UTF-8. Hein. Essayez de faire un petit script en WinBatch. Intégrez-y des messages avec des caractères accentués et là vous allez pleurer, mais vraiment.
Donc, c'est un peu le temps du VT100 sur Linux.
C'est ça, voilà, c'est un peu ça. Donc effectivement, le bash, ça serait plutôt pas mal. Alors peut-être qu'un jour on aura ZSH. Peut-être.
Oula, attention, doucement, c'est Microsoft. Hein.
Bah, apparemment, ils ont compris que leur avenir c'était Linux, donc ça devrait aller. Mais bon, après, vous utilisez aussi Cygwin de temps en temps, c'est assez pratique aussi pour avoir des shells, Python, enfin tout ce qu'on veut de Linux sur Windows.
Enfin, c'est pratique, c'est pas toujours très simple à installer.
Ah bon ?
Je sais pas, moi j'utilise pas, donc j'utilise.
C'est super simple à installer. Il y a une appli à télécharger, puis après tu choisis le package que tu veux rajouter.
La seule chose que j'ai installée, c'est un guide pour Windows qui propose effectivement un bash, un terminal que l'on peut utiliser. Effectivement, j'utilise plus celui-ci que celui sur ma machine de travail, du moins, que celui de Windows qui est vraiment à chier. Il n'y a pas d'autre dans terme. Ah, on a une réaction de Striker sur le IRC qui nous dit Windows. Oui, c'est un peu ça. Enfin voilà, toujours est-il que, rappelez-vous, une vingtaine d'années en arrière, ils nous méprisaient. Voilà, les gars de chez Microsoft, ils nous méprisaient. Ensuite, Steve Ballmer nous a dit que Linux, on était une communauté de voleurs parce qu'on volait la propriété intellectuelle de Microsoft. Ensuite, ils ont commencé à parler à nous faire du patent troll en parlant du FAT32, que c'était qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, à faire raquer tout un tas de sociétés qui utilisaient Linux par le biais de ces brevets sur le FAT32, notamment toutes les intégrateurs de téléphones portables. Et maintenant, ils ont compris que...
Et le reverse engineering sur Apache aussi, c'est ouais. Pas mal.
Et maintenant, on a même du NTFS sur Linux.
Voilà. Mais maintenant, ils se mettent à déclarer leur amour. D'abord, porter SQL Server sous Linux. Voilà. Et ensuite, nous parler d'intégrer le batch et de pouvoir éventuellement, par un partenariat avec Canonical, je dirais la plus microsoftienne des entreprises linuxiennes, d'intégrer les applications natives Linux dans Windows, apparemment par des librairies natives et non pas de l'émulation ou même de la virtualisation. Donc, et demain, peut-être, ils tourneront sur un noyau Linux.
C'est leur futur. Comme le futur de Linux et BSD.
Je savais que tu allais nous dire
Linux
quelque chose.
Linux libre, voyons grand.
Enfin, c'était la petite anecdote sympathique de notre radio de ce mois-ci. D'ailleurs, il y a eu un poisson d'avril dérivé de ça. Apparemment, c'est notre ami Corben qui disait Windows sur Ubuntu. Voilà, de faire l'inverse, d'avoir accès à l'App Store, au Windows Store, sur Ubuntu.
KDE, c'est pas ça, non?
Et fais gaffe, il y a des poneys là-bas, ils sont fans de KDE, hein, le dis pas trop fort.
Il y a même des fans de Gnome. Mais...
Ah oui, moi. Moi, j'aime GTK. Bon, je vous propose une petite pause musicale, et ensuite, on va parler de Compiz Not Dead.
Vite fait.
Alors, okay. qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau suivant?
Alors, le morceau suivant, je vais proposer le... Attendez, je retrouve mon petit onglet. Le numéro 4, It's All Over.
Donc, c'est Reset Sacré-Cœur sur Radio Girol.
T'écoutes Radio Girol. www.girol.org. We'll be right back.
another hopeless night, forever hopeless now. Can see the stars pass me by, yeah.
Écoute Radio Girol.
www.girol.org.
Ah, j'avais commencé déjà à diffuser la musique suivante.
Ouh.
Donc,
j'anticipe.
On va parler de Compies Not Dead.
Oui, Compies Not Dead. Oui, enfin, tout le monde connaît peut-être un petit peu Compies.
Ouais,
c'était un projet qui existait depuis pas mal de temps déjà.
Longtemps.
Longtemps. C'était l'époque où on essayait de faire tourner des cubes sur un écran. En fait, c'était la chose la plus marquante de Compies, c'était la possibilité d'afficher les différents bureaux sous forme d'un cube, le faire tourner avec la souris et les raccourcis clavier. Bon, ça, c'était le côté Kikoulol pour attirer des Windowsiens.
Enfin, Kikoulol, rappelons-vous que pour ceux qui utilisent des ordinateurs Apple, quand on change de session sur Apple, il y a le fameux cube.
D'accord. Bon, donc c'est pour attirer
les utilisateurs d'Apple.
Et ça faisait rêver, paraît-il, les utilisateurs de Windows qui venaient en masse sur Ubuntu pour avoir le cube qui tourne. Alors, c'est un peu la caricature, parce qu'en fait, c'est aussi plus que ça. Enfin, t'as d'autres effets peut-être un peu fun, comme les flammes et tout ça. Bon.
Les fenêtres molles qui se déplaçaient façon gélatine.
Exactement.
Le gâteau anglais, là, qui...
Après, c'est pas forcément que ça, c'est aussi des aspects pratiques dans la gestion des bureaux. Moi, j'ai actuellement Compies et j'utilise pas de trucs super exotiques sur ma machine pour autant. Donc voilà, donc Compies est de nouveau sur le devant de la scène, on va dire, des gestionnaires de bureaux. Donc voilà, le projet est reparti. Vous pouvez trouver des infos sur compies.org. avec un wiki qui va bien. Et donc, comme il n'existait pas de dépôt pour Debian, eh bien, dorénavant, c'est possible. Vous pouvez trouver un dépôt pour Compies Debian. Voilà, ça se trouve à compies-debian.tuxfamily.org. Et nous aurons peut-être la chance, la joie, l'honneur et l'avantage d'avoir un de ces quatre, l'interview de Geoff qui s'en occupe et qui pourra parler beaucoup mieux que moi de ce qui se passe dans le projet Debian en général et qu'est-ce qu'il fait aussi pour Compies Debian, puisqu'il n'y a pas que le paquet Debian, il y a d'autres choses. Il fait aussi les thèmes pour Emerald, qui est la partie. Donc,
le gestionnaire de fenêtres.
Voilà, le gestionnaire de fenêtres.
Voilà, alors effectivement, on a la confirmation de notre ami Strikor que Compies n'a jamais cessé d'exister.
Il a eu des hauts et des bas, on va dire.
Il est quand même utilisé à la base par Unity pour tout ce qui est effectivement effet. Donc effectivement, on peut faire des choses. Certains d'entre nous se rappellent les fenêtres qui bougent, les flammes, toutes les fenêtres qui tournoient pour arriver, qui éclatent tel un peu un vase que l'on jetterait par terre. Mais il y a aussi effectivement la partie plus... Voilà. Normal, je dirais, d'utilisation. Et c'est actuellement utilisé dans Unity, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Comment ça, c'est pas normal d'avoir des flammes sur son bureau ?
Dark. Si, tout à fait.
Dark Unity.
Standard.
Voilà, justement, moi, j'aime pas Unity. Donc, voilà, si on voulait, après avoir Compies sur autre chose qu'Unity, ben, c'est pas évident.
Non, Unity. J'aime pas Unity, mais je reconnais que c'est user friendly pour les débutants. C'est très pratique.
Oui, c'est vrai.
Une fois qu'on a enlevé les pubs pour Amazon.
Une fois qu'on a enlevé les pubs pour Amazon.
Bon, alors,
c'est bien pour les tablettes.
c'est bizarre, c'est ce que disent les gens pour Gnome 3 en fait.
Bon, là, je pense qu'on est parti sur un gros troll.
c'est
mais ça. Bon, on s'en doutait. Hein.
c'est tout à fait ça. Ceci étant dit, on peut toujours essayer i3 sur une tablette, ça peut peut-être fonctionner. Avec un stylet. Enfin, toujours est-il que pour le projet Compies Not Dead, il y a toujours il y a un dépôt GitHub qui est lancé,
voilà.
Qui est mis à jour régulièrement, puisque le dernier commit d'il y a deux jours. Et pour, apparemment, d'après ce que j'en ai compris, c'est la version 8 qui a été forkée, alors que Unity utilise la version 9 qui est plutôt adaptée à l'utilisation qu'en fait Unity. Enfin,
C'est en fait ce que fait Ubuntu, comme d'habitude, c'est qu'ils personnalisent à leur sauce, et suivant leurs besoins. Donc voilà.
Voilà, et ça avait surtout le, je me rappelle à l'époque, on avait des jolis effets, surtout pour pas un rond, puisque c'était plutôt léger en processus, en ressources système.
Effectivement, et c'est très léger, oui. Je confirme, parce que moi, je suis sur une machine où effectivement la partie bureau ne doit pas m'encombrer, et c'est quand même assez léger. Et finalement, j'ai moins de bugs parfois avec Compiz qu'avec le bureau XFCE.
C'est ça, voilà. Qui était magique avec Compiz, c'est qu'avec une petite configuration, une carte graphique moyenne, on avait des effets qu'on trouvait nulle part ailleurs.
C'est vrai.
Même avec ma feu Intel 945, qui était vraiment pas une foudre de guerre, c'était avant l'avènement des Intel HD, graphiques HD 2000, 3000, qui ont réussi à remonter un petit peu le niveau, mais avec les vieux i945 et leur driver i915, qui était vraiment à la ramasse, on arrivait à faire quelque chose de relativement correct.
Les premiers IPC, ça marchait parfaitement.
Bien. Exactement.
C'était beau. Que d'émotions.
C'est ça. Je vous propose une petite pause musicale et on va juste enchaîner sur un petit peu news au niveau jeux vidéo. Il y a, à part Mathis, il y en a qui jouent ici
À 0AD, parce que je suis un vieux nostalgique de Age of Empire. Mais sinon. Ouais.
Sinon, tu pourrais jouer à une PS4, c'est BSD qui est là-dedans.
Ouais, aussi, mais là j'ai pas le temps.
Bon, Isa, alors qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite ?
Eh bien, je vais proposer le titre qui s'appelle Intelligent Music.
C'est celui que j'ai commencé à diffuser par erreur tout à l'heure.
C'est magique.
Voilà, c'est sur Radio Girol. Ah.
Och min röst att
Radio Girol. www.girol.org.
Et voilà, de retour sur Radio Girol pour la dernière ligne droite. On va parler de news autour du jeu vidéo. Est-ce que toi, Isa, tu en as des news?
Alors non, pas du tout. Je suis interdite de jeux sur tablette, puisque je joue moi sur tablette, à cause de mon problème d'épaule.
Voilà, fini. Et comment tu te sèvres alors?
Hein?
Ton sevrage, ça se passe bien?
Ça va, je fais du jardinage à la base.
Ah oui, c'est pas forcément mieux pour l'épaule, surtout si tu utilises une bêche.
Si, non, c'est pas pareil, parce que tu comprends quand tu tapotes avec ton doigt comme ça, et que t'es penché, et que... Non, c'est pas pareil.
Bon.
Voilà.
Bon, Alexandre, apparemment, tu joues pas trop, à part 0AD.
Oui, c'est ça.
Moi, mais ça bouge.
Eh ben, il y a des nouvelles versions qui sortent tout le temps, ça évolue, l'intelligence artificielle est de plus en plus puissante, j'ai du mal à le battre, donc voilà. J'étais très content de jouer avec ma sœur, elle n'a jamais gagné pendant 5 ou 6 ans. Donc là, contre l'ordinateur, je me fais rétamer, j'ai trouvé mon maître et je suis très content.
Voilà, façon le super calculateur d'IBM, c'était IBM ou Google contre le joueur de Go.
De Go, oui. Ouais, oui. Alors je joue de temps en temps aussi un peu au Go et c'est vrai que là, on pensait que ça n'arriverait jamais. Bon, voilà,
c'est fait. Mais est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou purement de la statistique?
Là, je ne me suis pas penché sur le problème.
Mais l'intelligence artificielle s'appuie aussi sur la statistique.
Voilà, c'est ça.
L'IA doit utiliser toutes les méthodes qu'elle peut pour arriver à jouer.
Bon. Mais de toute façon, un jour, Skynet débarquera et nous ferons tous un grand coup de pied au cul et on finira en crâne écrasé par des T-1000.
On rentrera dans la résistance.
Ou en résistance, voilà. Enfin, moi personnellement, j'ai acheté un nouveau jeu, ça arrive deux fois, sous Linux, bien sûr, je ne joue que sous Linux. Vous connaissez bien, et puis de toute façon, on est ici pour parler de Linux. Mais sur Steam. Oui, j'ai acheté sur Steam, bah ouais, j'avais une carte cadeau à dépenser. Alors. Voilà. Sinon, j'essaie d'acheter sur Humble Bundle ou directement l'éditeur.
Chez Humble Bundle, ils ne mettent rien à jour, donc ça c'est un peu chiant.
Oui, mais tu t'en fiches, ils te filent la clé Steam et... Tu télécharges.
Ah oui, sur Steam, oui, ça va. Sur tablette, la galère.
Voilà, tu télécharges, puis tu mets sur ton serveur dans un coin au cas où Steam un jour te dise que bah, non, t'as plus le droit de citer. Et puis tu joues pour l'instant sur Steam parce que c'est la facilité. Donc le jeu s'appelle Layer of Fear. On en avait parlé ici il y a deux mois quand il est effectivement sorti Day One sous Linux. C'est un jeu qui utilise le moteur Unity, qui est compatible Linux, mais tout le monde connaît Unity pour sa tendance à être pas très très véloce sous Linux et être un ramé légèrement.
Mais voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Mais
on parle pas du bureau Unity, on parle du gros moteur 3D.
Même le bureau Unity est pas très véloce. Hein.
Voilà, c'est un jeu, on pourrait dire un jeu d'horreur. On dirait pas un survival horror parce que pour l'instant, pour les 2h30 auxquelles j'ai joué, on ne meurt pas. Mais par contre, effectivement, même si c'est pas le jeu du siècle qui file la frousse, les grosses sueurs et compagnie, c'est un jeu qui fait quand même pas mal frissonné avec une histoire qui est relativement prenante, une ambiance très pesante et surtout une réalisation graphique qui est extrêmement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est beau, c'est bien foutu. On explore une maison façon Amnesia, The Dark Descent ou encore Soma, nos jeux préférés de chez Frictional Games. On ouvre des placards, on regarde, on récupère des mémos dans une maison qui a été habitée par un artiste peintre que l'on peut soupçonner d'être très légèrement schizophrène, sa femme qui n'a pas l'air bien mieux et leur fille, et on sait pas encore ce qu'elle est devenue. Voilà, je parlerai pas trop du jeu parce que je vous laisserai le plaisir de le découvrir pour ceux qui se laisseraient tenter. En tout cas, j'en ai rien qu'à en parler, j'en ai moi un peu la chair de poule. C'est un jeu qui est, même s'il ne fait franchement pas peur, qui met dans des situations assez embarrassantes et assez angoissantes. Voilà, ça s'appelle Layer of Fear. C'est développé par une équipe polonaise qui s'appelle Bloomer, je crois. Attendez, on va rechercher. C'est édité par Aspyr Media, à qui l'on doit les portages de notamment Borderlands The Pre-Sequel et Borderlands 2 sous Linux. Même si c'est Unity, ça tourne plutôt bien sur une configuration quand même bon, taillée pour le jeu à base d'NVIDIA GTX 970 et d'un Intel Core i5 4460. Je tiens de très bonnes performances avec une pièce en particulier qui est très très demandeuse en ressources système de par l'éclairage et qui fait un petit peu ramer la machine. Mais sinon, ça tourne plutôt bien. Ça file pas vraiment la frousse, mais des bons frissons. Et c'est extrêmement bien réalisé. donc c'est sous Linux. Vous pouvez acheter ça sur Steam, sur, je crois qu'il est disponible sur GOG et sur Humble Bundle ou directement sur GameAdjunct, le site internet de l'éditeur Aspire Media. Voilà, question jeux vidéo.
Pas mieux.
Bon, ben, je pense qu'il va être temps, ben, sur ces jolis mots, de se laisser. On se retrouve, nous, le 29 avril.
Non, le 28.
Le 28, oula.
Voilà, le 28 avril.
Exactement. On se retrouve le 28 avril pour une émission spéciale en direct de la bibliothèque Saint-Augustin, durant laquelle vous allez pouvoir écouter deux groupes en concert.
Un seul pour le moment.
Un seul pour le moment.
Oui, un seul. Ah. Non, ça sera un seul de toute façon pour eux. Ça sera uniquement David et Jonathan.
D'accord. Alors, justement, pour eux, il vaut mieux que ce soit pour eux tout seuls. Donc, on retrouvera oui. David et Jonathan. Jonathan et David. Jonathan et David.
C'est ça, pardon. C'est normal.
Jonathan et David avec leur rap du troisième type. Voilà. Et suivi d'un débat public autour de la musique libre, de son histoire et de ses enjeux. Tout ça avec nos amis de la bibliothèque Saint-Augustin.
Voilà, des intervenants.
Voilà, et d'autres intervenants sérieux, dont Isa. T'es sérieuse, Isa ?
Oui, enfin, moi, je suis pas sûre d'être dans les intervenants. Il y en a des vrais. Il y a Cédric Favre, si je ne n'écorche pas son nom.
Oui, de l'AEC.
Voilà, qu'on avait déjà rencontré lors d'une manifestation avec des bibliothécaires aussi. Avec le... Comment ça s'appelle ? C'est pas un syndicat, mais c'est le regroupement
national des bibliothécaires, voilà, médiathécaires
de France. Voilà.
De France.
Et donc, il intervient au sujet dans la partie juridique, on va dire.
Voilà.
Et il y aura aussi le fondateur de Musique Libre, un des trois fondateurs de Musique Libre.
Rico.
Rick Awanes.
Voilà. Et après nous, on se retrouvera le mardi 10 mai. En direct de Radio Girol, peut-être à 19h, sûrement 19h15, comme d'habitude, suivant l'arrivée.
Suivant l'air du temps.
Voilà, l'air du temps, la pluie, le beau temps, les bouchons à Bordeaux, tout ça, tout ça. Et on se retrouvera aussi au mois de mai, le 19 mai, si je ne m'abuse, pour une autre émission.
Une autre bibliothèque.
Une autre bibliothèque. Cette fois-ci, ça se passera à la bibliothèque du Grand Parc pour un autre concert avec Paul Emmanuel.
Alors, je l'espère fortement, mais je n'ai pas pour l'instant plus de nouvelles, mais sûrement.
Et notre ami.
Confirmé, puisqu'il y aura Buxy.
Bugsy Cornet, qui lui, c'est
voilà,
sûr.
Bugsy Cornet, c'est sûr.
Voilà, en attendant, passez à tous une bonne soirée. On va passer un dernier petit morceau de Reset Sacré-Cœur. Est-ce que tu en as un qui te vient à l'esprit, là ?
Oui, alors, dans la petite liste, il y en avait un autre que j'avais trouvé fort sympathique. Il faut juste que je retrouve le numéro, parce que si j'ai noté le numéro, c'est plus facile. Donc oui, le 10, parce qu'il a un côté un peu punk, j'ai trouvé sympa.
Lequel, pardon ?
Hidden Track. C'est la
10.
C'est la piste cachée.
Allez, bonne soirée sur Radio Girol.
Girol vous donne le micro au 05 80 31 43 34.
Girol, la radio.
amis, pas 400, merci.